Gloire soit rendue à notre Dieu Tout-Puissant qui nous a arrachés du monde des ténèbres dans lequel nous étions vautrés pour nous transporter vers le royaume de son Fils bien-aimé, vers le royaume de la lumière. Gloire soit rendue au Seigneur ce matin. Et c'est ce que nous avons essayé de faire avec nos limites, avec nos faibles mots, mais nous espérons que le culte que nous lui avons rendu, lui, ait été agréable. On va lire un verset pour introduire ces moments. Ça sera un message, le sujet du message nous amènera à avoir un partage un peu théorique, un peu historique, mais aussi un peu pratique. On va lire comme premier verset. Donc, dans Romains au chapitre 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Un verset qui nous amène à faire preuve de discernement. Et notre sœur Sarah, dans sa prière tout à l'heure, elle a demandé au Seigneur Dieu qu'il nous accorde du discernement et qu'il nous éclaire en toutes choses. Et c'est ce que l'apôtre Paul écrit lorsqu'il rédige sa lettre à l'Épître aux Romains, de l'Épître aux Romains, Romains 12, Romains 12, verset 2, où nous lisons donc et l'apôtre Paul écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent » ou bien selon d'autres versions « au monde présent » au siècle présent « mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence » afin de discerner quelle est la volonté de Dieu pour vous. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Que le Seigneur nous accorde en toute chose, du discernement. Que nous n'en manquions pas, mais que nous puissions discerner sa volonté pour chacun d'entre nous, dans quelque domaine que ce soit. C'est la période, c'est la saison de certains cucurbitacés. Vous savez, c'est quoi les cucurbitacés? C'est la famille des potirons, des citrouilles, des courgettes, aussi des melons, des pastèques. J'aime beaucoup le butternut, vous savez là, que Ingrid prépare en potage. Regardez, elle en a un de butternut comme ça. Oh, j'aime bien ça, avec de la crème fraîche et puis un petit peu de lardon, mais pas trop. Mais je suis certain que beaucoup de sœurs, elles préparent aussi d'excellentes recettes de potage à partir de potirons, de citrouilles et tous ces fruits de saison. Je ne sais pas si ce sont des fruits ou des légumes par ailleurs, mais on en trouve de plus en plus maintenant. Une citrouille, ça pèse. Je sais pas. T'as déjà pesé le plus gros potiron qu'on avait dans le jardin? Non? 9,5 kg. Et vous connaissez le record de la citrouille la plus lourde qu'on ait cultivée aux États-Unis? C'était en 2013 en Californie. Est-ce que vous connaissez le poids de cette citrouille? 120-150 kilos. Combien? 500 kilos. Le poids de la citrouille la plus lourde en 2013 était de 922 kilos. Vous imaginez? Presque une tonne. Et puis ce record-là, il a été battu lors du concours du potiron européen en Allemagne. Il a dépassé la tonne. Il pesait ce potiron. C'est pas un potiron, c'est vraiment une citrouille. Elle pesait 1 tonne 190 kilos et 500 grammes. C'est inimaginable, hein? Les potirons, les citrouilles. La citrouille ou le potiron sont des figures aussi incontournables dans cette fête qui approche et qui aura lieu le 31 de ce mois. La fête bien connue d'Halloween. Il y a une trentaine d'années d'ici, vous ne connaissez pas tellement que ça, la fête d'Halloween. C'était une fête qui était prisée par les peuples anglo-saxons, mais nous, on ne la connaissait pas tant que ça. Je me souviens quand elle est arrivée dans une des écoles où je fonctionnais à l'époque. Je suis arrivé dans l'école et à l'entrée, il y avait des espèces d'escaliers, de 3 marches en bois, des escaliers qui ne menaient nulle part, qui étaient contre un mur, là, avec 3 mètres de large. Et on avait, les institutrices avaient décoré sur ces marches des potirons, des coloquintes, des petits fantômes. Il y avait une sorcière qui était suspendue sur son balai. Il y avait des toiles d'araignées, des fausses toiles d'araignées avec des fausses araignées qui étaient là. C'était bizarre. Et je me disais, mais pourquoi, qu'est-ce que ça fait là? Et puis, au fil des années, ben, c'est devenu une habitude un peu partout qui s'est généralisée en France comme en Belgique. Aujourd'hui, Halloween est devenu un des thèmes mis à l'honneur dans cette période automnale. On voit des potirons partout. Dans les écoles, comme je viens de le rappeler, mais aussi dans les familles, sur les devantures des maisons, on trouve des potirons dans les animations de village, les parcs d'attractions, etc. On trouve des choses qui couvrent largement ce thème lié à cette fête d'Halloween. C'est devenu finalement un deuxième carnaval, avec ces déguisements de sorcières, de fantômes, de squelettes, de zombies, etc. C'est devenu un deuxième carnaval qui est célébré. Mais d'où vient cette fête d'Halloween? Quelle en est son origine? Eh bien, Halloween est la contraction d'une expression de l'ancien anglais, du vieil anglais, All Hallows Eve, qui est devenu, sous sa forme contractée, donc l'Halloween tel que nous le connaissons maintenant, qui signifie la veille de tous les saints. Tiens, il y a le mot saint dans Halloween. Donc s'il y a le mot saint dans Halloween, c'est qu'Halloween doit quelque part avoir quelque chose de chrétien. Ben oui, Halloween, au départ, c'était effectivement une fête chrétienne. Une fête chrétienne. Mais alors pourquoi est-ce qu'on trouve à travers cette fête d'Halloween ces déguisements effrayants un peu partout? Ces fantômes, ces spectres, ces squelettes, ces zombies. Pourquoi est-ce que... Eh bien parce que au fil du temps, depuis le 19e siècle, Halloween a été ou s'est désacralisé. Il a perdu son aspect chrétien, sa portée chrétienne. Et il a perdu sa portée chrétienne, il s'est désacralisé en quelque sorte, pour en revenir de façon ludique, donc de façon parodique, à ses premières racines qui, elles, n'étaient pas chrétiennes, mais étaient celtiques, étaient celtes. Donc, le fondement, l'origine première de cette fête d'Halloween, qui était une fête chrétienne, trouve ses racines dans le culte païen celte et plus particulièrement dans la fête qu'on appelle la fête de Samhain. La fête de Samhain qui était célébrée en Irlande, en Écosse, en Angleterre et en Bretagne. C'est une fête très ancienne qui date de 2000, au moins environ 2500 ans, donc avant Jésus-Christ. Qui date de 2500, donc 500 ans ou 600 ans avant Jésus-Christ. Samhain est donc une fête très ancienne qui signifie en gaélique la fin de l'été. La fin de l'été. Alors à cette époque, le calendrier celte se divisait en deux moitiés. Il y avait donc une moitié sombre, et puis il y avait une moitié claire. Et c'était une fête qui durait 7 jours, et le point culminant de cette fête se trouvait le 31 octobre. Et le 31 octobre, eh bien, c'était finalement le nouvel an chez les Celtes. Il marquait la fin de la période claire et le début de la période sombre. C'était le passage d'une période à l'autre. La période claire s'estompait, s'effaçait au profit de la période sombre. Et donc ce 31 octobre, les Celtes se réjouissaient, ils festoyaient à l'excès, ils célébraient les récoltes, ils rentraient les bêtes, et aussi ils croyaient que cette nuit du 31 octobre au 1er novembre, le voile qui sépare le monde des morts et celui des vivants, la frontière qui sépare le monde des morts, le monde des esprits et celui des vivants, devenait poreux en quelque sorte, perdait sa perméabilité. Et que cette nuit, donc du 31 au 1er novembre, 31 octobre au 1er novembre, eh bien, les esprits qui n'étaient pas encore incarnés, parce qu'ils croyaient effectivement à la réincarnation, venaient visiter les villages dans lesquels ils avaient vécu quand ils étaient encore sur la terre. Alors c'était une fête importante qui impressionnait les Celtes au point que pour recevoir les faveurs de bons esprits, d'esprits bien disposés, si je puis dire, et si on peut parler ainsi, les Celtes offraient de la nourriture et même des boissons aux esprits pour les accueillir positivement en espérant qu'ils leur accordent dans l'année à venir des récoltes abondantes. Mais aussi pour faire fuir et pour se fondre parmi les esprits malveillants, ils se déguisaient en mettant, en badigeonnant sur leur visage de la cendre, en se revêtant de peau de bête et en portant sur leur tête des têtes de cervidés ou bien de renards. Et comme ça, ils pensaient être protégés des esprits, se fondre parmi eux, mais aussi les faire fuir. Ils avaient donc peur des esprits malveillants. Alors le druide, eh bien, c'était le prêtre de la communauté. Alors le prêtre de la communauté, le druide, il allumait un feu sacré pour faire fuir aussi les mauvais esprits, et chaque membre d'une famille récupérait une braise de ce feu sacré pour faire fonctionner un nouveau feu pour la nouvelle année qui commençait par la saison sombre après avoir éteint précautionneusement le feu de l'année écoulée. Le druide aussi pratiquait la divination à travers des sacrifices d'animaux et parfois même d'êtres humains en observant les entrailles. Et il pratiquait aussi une forme de comment est-ce qu'on appelle ça, de c'est pas la nécromancie, c'est il consultait les esprits des morts et les évoquait parfois. Donc c'était vraiment quelque chose d'obscur. C'était la nécromancie, le mot sur lequel je ne revenais plus. Alors, il y a dans tous ces détails, dans tous ces faits historiques, certainement une part de mythologie, mais il y a aussi certainement une forte présence occulte qui est sous-jacente à tout cela. Vers le 5e siècle de notre ère, le christianisme a commencé à se répandre dans ces contrées. et à prendre de l'expansion. Mais il s'est rapidement aussi trouvé face à ces pratiques celtiques malsaines et troublantes. Et pour favoriser la christianisation de ces peuplades, le pape de l'époque, au 8e siècle, cette fois, Grégoire III, va absorber en quelque sorte la fête de sa main en déplaçant la fête de la Toussaint, qui était jusqu'alors célébrée le 13 mai, en la fixant à la date du 1er novembre. Mais comme la fête de sa main durait plusieurs jours, 3 jours avant le 1er novembre, avant le 31 décembre et 3 jours après le 31 décembre, et que sa main commençait effectivement le 31 décembre, le 31 octobre, eh bien, parce qu'il faut suivre dans tout ça, évidemment, eh bien, ils ont aussi adopté cette date du 31 octobre, durant laquelle commençait la fête du Samain, pour en faire cette fête, All Hallows Eve, qui deviendra la fête d'Halloween dont nous avons parlé précédemment. La fête, la veille, finalement, de tous les saints, qui est une préparation à la fête de la Toussaint. On y reviendra un petit peu plus tard. Une préparation à la fête de la Toussaint. Ainsi, l'Église romaine a espéré supplanter, voire annihiler la fête du Samain, ces rites païens, celtiques. Mais malheureusement, ils ont eu difficile à se séparer, à faire disparaître ces traditions païennes, puisque jusque très tard dans le Moyen-Âge, on voit qu'il y a une sorte de mixité, de syncrétisme entre les traditions chrétiennes et les traditions païennes. Et finalement, les Celtes vont continuer à pratiquer certaines traditions païennes tout en intégrant progressivement les fêtes chrétiennes. Donc il y avait une sorte de mixité, un christianisme entremêlé de rites païens, comme ça se passe finalement encore dans certains pays du continent africain. Quand le christianisme a été introduit en Afrique, certaines tribus ont conservé le rite païen, comme par exemple l'animisme. Donc il y a dans certaines régions d'Afrique un christianisme mêlé d'animisme, comme il y a dans certaines régions aussi d'Amérique centrale un christianisme mêlé de vaudou. Donc c'est une mixité comme ça, ce n'est pas un christianisme pur. Et donc tout au long du Moyen-Âge, les Celtes, qui avaient une religion tout à fait différente de celle du christianisme, ont conservé jusque très tard leur rituel païen, culturel et religieux. Alors finalement, comme nous le rappelions il y a un instant, Halloween s'est totalement démarqué de sa portée chrétienne au XIXe siècle, surtout avec l'immigration des Irlandais qui souffraient de la famine au XIXe siècle, avec la, si vous connaissez un petit peu l'histoire, avec la fameuse crise liée à la production de pommes de terre. Il y a eu une famine terrible qui a sévi en Irlande, tant et si bien qu'il y a eu une vague d'immigration importante d'Irlandais qui ont emporté avec eux cette fameuse fête d'Halloween sur le continent américain. Alors, cette fête donc est devenue essentiellement dès lors une fête populaire, une fête commerciale, avec un retour parodié, comme je le rappelais tout à l'heure, des célébrations du Samain, de la fête païenne de Samain. Alors le feu a été réduit à une bougie qu'on a introduite dans une citrouille. À l'origine, en Irlande, ce n'était pas une citrouille, c'était un navet qui était sculpté. Et puis, l'au-delà, les personnages de l'au-delà, les esprits, etc., on les retrouve dans l'Halloween contemporain à travers les déguisements de fantômes, de spectres, de squelettes, etc. Et puis, les offrandes qui étaient faites eh bien, aux esprits, on les retrouve aussi à travers les bonbons que l'on distribue aux enfants à l'occasion de cette fête. Alors on peut peut-être ici ouvrir une parenthèse, puisque nous approchons de cette fête de la Toussaint, pour mieux comprendre les trois jours consécutifs que sont dans la tradition catholique le 31 octobre, le 1er novembre et le 2 novembre. Alors le 31 octobre, c'est un jour qui ne s'appelle plus Halloween dans le monde anglo-saxon. Ils ont changé l'appellation d'Halloween en utilisant une forme de jeu de mots et en appelant ce jour qui précède celui de tous les saints, de la Toussaint, ils l'ont appelé Halloween au lieu de Halloween, ce qui signifie le saint ou la sainteté gagne. C'est un jeu de mots assez pertinent. Chez nous, dans le monde francophone, on appelle ce jour-là le jour, la veille de la Toussaint, tout simplement, la veille de la Toussaint. Donc, le 31 octobre est redevenu dans l'Église catholique ce qu'il était à l'origine à travers la fête de All Hallows Eve, la veille de la Toussaint. La veille de la Toussaint. Que font les catholiques, les chrétiens catholiques durant cette fête de la Toussaint? Durant cette fête de célébrer la veille de la Toussaint, eh bien, ils préparent la Toussaint. Ils préparent la Toussaint à travers peut-être des messes, sans doute organisées par certains prêtres de certaines paroisses, mais ils consacrent aussi le soir à la prière qu'on appelle des vêpres. C'est la prière du soir, et même parfois des veillées durant la nuit qu'on appelle des vigiles, des prières nocturnes, des veilles de prière. Donc tout cela contribue finalement à la préparation de la fête de la Toussaint qui a lieu le 1er novembre. Alors le 1er octobre, ben, c'est justement la fête de la Toussaint. Vous êtes attentifs, c'est bien. Le 1er novembre, c'est donc la fête de la Toussaint. Alors, qu'est-ce que c'est que la fête de la Toussaint pour les chrétiens catholiques? Eh bien, c'est une célébration religieuse, une messe qui est faite en l'honneur de tous les saints. On rappelle, par exemple, la vie exemplaire de certains saints qui sont considérés comme étant des modèles pour les fidèles. On rappelle aussi la vie de foi qu'ont mené certains martyrs de l'histoire de l'Église. Et on les prend en exemple, on les prend en modèle. Ils chantent, il y a une homélie qui est apportée par le prêtre et qui est axée justement sur la sainteté. Mais à côté de ça, les catholiques prient les saints. Ils prient les saints en leur demandant simplement d'intercéder auprès de Dieu en leur faveur. Et c'est ce qu'ils appellent la communion des saints. Nous, on a une autre conception de ce qu'est la communion des saints. Pour nous, la communion des saints, eh bien, c'est une entraide entre les chrétiens, des moments de partage de la parole de Dieu, des moments de prière en commun. Il y a une solidarité entre les églises, il y a une solidarité envers les chrétiens les plus démunis, il y a une solidarité envers les œuvres missionnaires. C'est ce que nous appelons, nous chrétiens protestants, la communion des saints. Mais c'est autre chose, c'est perçu différemment chez les chrétiens catholiques. Évidemment, on aime aussi à rappeler ce verset bien connu d'un Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu. Et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. On aime rappeler ce verset, cette grande vérité. Et cela, bien évidemment, va à l'encontre de la croyance à laquelle adhèrent les chrétiens catholiques. Alors s'il y a une communion entre les vivants chrétiens et les morts en Christ chez les protestants, c'est une communion qui est plus spirituelle, davantage spirituelle que rituelle finalement, tout en sachant que cette communion, eh bien, elle se confirmera de façon pratique lors de la résurrection. Si vous me suivez. Alors, il faut aussi rappeler, ce qui me semble important, c'est que la notion de saint chez les protestants est différente de celle qu'on rencontre, que connaît l'Église catholique. Les saints chez les protestants, ben, c'est toute personne qui est née de nouveau, elle est sanctifiée, elle est mise à part, donc elle est considérée effectivement comme étant sainte. L'apôtre Paul, d'ailleurs, quand il écrit aux différentes églises qu'il a fondées, par exemple en Éphésiens au chapitre au verset 1, dit « aux saints », quand il s'adresse à eux, qui sont à Éphèse. Donc, il considère l'ensemble des croyants, des membres des églises, comme étant des personnes saintes à part entière. Dans l'Église catholique, ce n'est pas la même chose. Dans l'Église catholique, la sainteté comporte trois niveaux, trois degrés. Il y a tout d'abord, lorsqu'un baptisé meurt et que ce baptisé, ce défunt, a mené une vie de piété, une vie exemplaire, une vie empreinte de charité, empreinte de foi, une vie qui a été caractérisée par ce qu'ils appellent des vertus, qu'ils ont fait preuve de vertus héroïques. Donc, il y a, si on veut proposer donc ce chrétien, pour qu'il devienne une personne sainte au premier degré, il y a une enquête qui est faite par l'évêque local. Et si l'enquête de l'évêque local confirme que la vie spirituelle du défunt a été conforme à une vie de piété, à une vie de foi exemplaire, à une vie qui a été caractérisé par des vertus héroïques, eh bien, ce chrétien mort intègre la première catégorie de saints qu'on appelle les vénérables. Donc, il y a trois catégories de saints. Il y a les vénérables, il y a les bienheureux et il y a les saints à proprement parler. Donc, ils intègrent cette première catégorie de saints qu'on appelle les vénérables. Alors, l'enquête peut se poursuivre. Et si cette personne baptisée qui est considérée désormais comme vénérable, eh bien, si cette personne, on la reconnaît comme ayant effectué un miracle, cette personne va passer au deuxième degré de la sainteté selon la conception de l'Église catholique. Il va devenir un bienheureux. Alors, l'Église catholique ne se prononce pas quant à savoir si les vénérables sont encore au purgatoire ou déjà dans la présence de Dieu, mais les bienheureux, eux, sont déjà, d'après les chrétiens catholiques, auprès de Dieu dans sa gloire. Il faut savoir aussi que les martyrs n'ont pas besoin d'avoir accompli un miracle pour intégrer cette deuxième catégorie de saints, ce deuxième niveau de saints, ils sont directement introduits. S'ils ont été effectivement victimes d'une mort liée à leur foi chrétienne, ils font partie directement de la catégorie des bienheureux. Et puis, il y a l'ultime degré, le troisième degré, c'est la canonisation. Alors, la canonisation, elle est caractérisée par un deuxième miracle qui est reconnu à un bienheureux. Si un bienheureux a connu, si un vénérable a accompli un premier miracle, il est dans la catégorie des bienheureux. Et si on lui reconnaît un deuxième miracle, eh bien, il fait partie de la catégorie des saints. Et c'est le pape, à ce moment-là, qui prend la décision d'accorder à ce défunt la qualité de saint. Et il fait partie automatiquement du culte des saints reconnus par l'Église catholique dans son entièreté. Alors, que dire, bien sûr? Cela nous laisse supposer qu'il y a beaucoup de chrétiens catholiques qui sont au purgatoire, n'est-ce pas? Ben oui. Si il n'y a qu'une certaine catégorie de croyants qui font partie de ces trois stades de sainteté, ben tout le reste des chrétiens se trouve encore au purgatoire. Alors le 2 novembre, c'est le troisième jour lié à la Toussaint, c'est ce qu'on appelle le jour des morts. Alors le jour des morts, c'est encore particulier. Les familles des défunts vont sur les cimetières, visiter les cimetières, fleurissent les tombes, allument des bougies et participent aussi à une messe parfois qui est organisée par le curé ou le prêtre d'une église locale. Et là, les chrétiens font quelque chose que nous ne faisons pas parce que nous n'y retrouvons pas là dans cette démarche. Ils prient les morts, ils prient pour les morts, ils prient pas les morts, mais ils prient pour les morts afin que Dieu leur abrège leur séjour dans le purgatoire. Ils prient non seulement pour les morts, mais ils pratiquent aussi des indulgences. Souvenons-nous de la terrible indulgence contre laquelle Luther s'est levé au Moyen-Âge, au XVIe siècle, lorsque l'Église catholique, à travers les prêtres qui faisaient du porte-à-porte deux par deux, réclamait de l'argent pour les âmes du purgatoire. Ça, c'est terminé, mais il continue quand même à pratiquer certaines indulgences en renonçant pendant au moins le jour du 2 novembre à une vie de péché. Il prie pour le pape, il s'adonne à la lecture de la Bible, une lecture profonde, assidue, pieuse pendant au moins une demi-heure. Il récite des chapelets et toutes ces activités, toutes ces formes d'indulgence contribuent, selon toujours la pensée de l'Église catholique, à écourter le séjour des âmes qui sont au purgatoire pour qu'elles puissent rejoindre plus rapidement la présence glorieuse de Dieu. Eh bien, là aussi, on aime bien rappeler, bien évidemment, ce verset d'Hébreux 9, chapitre 9, verset 27, qui dit ben, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il n'y a pas de deuxième chance, selon la doctrine de l'Église protestante. Après la mort vient le jugement. Je ferme la parenthèse, mais qui me paraissait quand même intéressante à rappeler en cette période du 1er novembre et de cette fête de Toussaint qui est célébrée, qui va être célébrée prochainement. Alors, finalement, pour en revenir à nos moutons ou à nos citrouilles, pour revenir à notre sujet principal, pour beaucoup, Halloween est devenu une fête, comme je le disais tout à l'heure, commerciale. Cependant, il faut aussi savoir que, en parallèle à cette fête Bon Enfant, il existe depuis 1980 un large renouveau de Samhain qui ressemble à sa forme primitive, avec là aussi une popularité qui va croissante. Et ce renouveau de cette fête de Pâques, de Samhain, pardon, eh bien, on l'appelle le néopaganisme, ou bien les nouveaux païens, avec les druides contemporains, il y a des druides contemporains, ou encore la Wicca, avec les sorcières. Ça existe toujours. Elles sont toujours là. D'ailleurs, la Wicca, c'est un mouvement spirituel qui est reconnu comme étant une religion officielle aux États-Unis et même dans l'armée américaine. Donc, c'est dire, c'est une réalité. Et selon une ancienne adepte, vous savez, une ancienne adepte de ces pratiques, désormais convertie au christianisme, à Jésus et gloire à Dieu, le satanisme et les satanistes et les sorciers prient et jeûnent avant la fête d'Halloween. Ils prient et ils jeûnent en faveur de leur maître. Et vous savez pourquoi est-ce qu'ils prient ? Ils prient pour l'avortement. Ils prient pour la destruction des couples. Ils prient pour qu'il y ait des divorces parmi les familles chrétiennes. Ils prient pour la chute de l'Église. Ils prient pour la mortalité infantile. Ils prient pour les viols. Ils prient pour l'adultère, le mal absolu. Ils prient, leur prière d'intercession envers leur maître va totalement à l'encontre des vertus chrétiennes. C'est une réalité d'aujourd'hui. Et il y a aussi le fondateur de l'Église satanique. Il a dit ceci, qu'Halloween était le jour le plus important pour les satanistes et qu'ils se réjouissaient de ce que les parents chrétiens laissent au moins une fois par an leurs enfants ou leurs enfants participer à des pratiques associées aux ténèbres. Alors c'est peut-être une provocation, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est une réalité. Ils ne plaisantent pas. La religion des Celtes n'existe peut-être plus, mais elle inspire toujours les mouvements occultes et ténébreux aujourd'hui. Bien sûr, la Bible ne parle pas d'Halloween. La Bible ne parle pas d'Halloween, c'est vrai. Mais elle nous met quand même en garde, elle établit certains principes de base dans l'ancien Israël. Entre autres, on sait très bien que les pratiques de sorcellerie étaient punissables de peine de mort. On trouve ça dans Exode chapitre 22, verset 18, Lévitique 19, 31, ou encore Lévitique 20, verset 6 et verset 27. La sorcellerie était passible de la peine de mort. Et dans plusieurs passages du livre des Actes, acte 8 avec Simon, acte 13 avec Élimas ou encore acte 16, on voit véritablement qu'il y a une incompatibilité totale entre le christianisme et l'occultisme. Il n'y a pas de rapprochement possible. C'est deux voies diamétralement opposées. Alors, question ? Est-ce que les parents chrétiens devraient autoriser leurs enfants à participer à ces manifestations, cette fête d'Halloween? Alors, par rapport à ça, par rapport à cette question, les avis divergent, comme souvent. L'approche des familles chrétiennes, des parents chrétiens, diffère de l'une à l'autre, d'une famille à l'autre. Certains, en effet, s'y opposent de façon effarouchée. Pour eux, ils sont totalement contre. Pourquoi ? Parce que ça ne correspond pas à leur conviction profonde, ça ne correspond pas à leur foi, à leur valeur chrétienne. Ils considèrent que, eux, ils célèbrent la lumière et pas les ténèbres. Ça, c'est une chose. Et puis, il considère aussi qu'ils ne doivent pas aimer l'esprit du monde, comme nous le rappelle Jean au chapitre 14, versets 15 à 17, et dans la première épître de Jean au chapitre au chapitre combien ? Au chapitre 2, versets 15 à 17. Là, il est clairement écrit, ben, n'aimez pas le monde. Donc eux, pour eux, c'est clair, ils ne veulent pas participer à aucune manifestation d'Halloween, quelle qu'elle soit. En outre, ils pensent que les fêtes d'Halloween génèrent de la peur, de l'angoisse, de l'insécurité et des cauchemars parmi les enfants les plus fragilisés, parmi les enfants les plus sensibles. Et puis, ils considèrent aussi que l'accent qui est mis, même sous forme de jeu, sur les forces occultes, sur les forces spirituelles ténébreuses, peut conduire certains, et en particulier les jeunes, à s'intéresser, à être fascinés, à développer une curiosité malsaine, finalement, envers toute forme d'occultisme, envers l'occultisme, le spiritisme, etc. Alors, j'ai connu dans certaines écoles des parents qui refusaient que leurs enfants participent à cette fête d'Halloween. Évidemment, ils étaient la cible de mépris parce qu'ils ne marchaient pas dans le courant populaire. Et parfois, les institutrices me posaient des questions. Chez les protestants, ne faites pas Halloween. Et ça, bon. Mais il y en a eu qui avaient cette position de refuser tout ce qui était célébration liée à la fête d'Halloween. Alors d'autres chrétiens sont moins catégoriques. Eux, pour eux, ils fêtent Halloween, considérant que c'est une fête récréative, créative, ludique, divertissante, amusante, et ils considèrent tout le reste comme faisant partie d'un deuxième degré. Je dis, les bonbons, ils sont quand même pas contaminés par un mauvais esprit. Donc pour eux, Halloween, c'est du deuxième degré, c'est une fête populaire, et ils permettent à leurs enfants d'y participer sans aucun problème. Et puis, il y en a d'autres, par contre, pour se démarquer de l'aspect festif d'Halloween, ils autorisent leurs enfants à participer à cette fête en évitant de leur donner un déguisement axé sur le thème des revenants, des fantômes, des squelettes, etc. Donc ils se déguisent. Il y en a qui ne se déguisent pas du tout, qui restent tel quel, en quelque sorte, mais il y en a d'autres qui se déguisent avec des déguisements plus soft, comme des déguisements de cow-boy, d'indien, de princesse, ou bien de super-héros, etc. Donc, ils montrent, en quelque sorte, une forme de démarcation avec tout le reste. Mais ils participent quand même à la fête. Certaines églises essayent, quant à elles, de trouver des alternatives à la fête d'Halloween. Ils célèbrent, par exemple, ainsi la fête de la Réformation, chère à l'Église réformée luthérienne, en souvenir avec la naissance de l'Église luthérienne en 1517. Souvenons-nous avec Luther qui a affiché le 31 octobre, en 1517 précisément, ses 95 thèses dans lesquelles il condamnait certaines pratiques, certaines doctrines de l'Église catholique de l'époque. Et donc, il préfère trouver comme alternative la fête de la Réformation, ou bien une fête de printemps, ou bien même, je disais, dans une certaine église, grosse église aux États-Unis, eh bien, certains avaient loué un gros camion avec plein de bonbons dedans. Et plutôt que de prononcer la formule un peu louche « trick and treat », qui signifie « des bonbons » ou bien « un sort », eh bien, les enfants étaient invités à dire « trick and treat ». Effectivement, ça veut rien dire, ça veut dire « camion » ou « bonbon », mais c'était une alternative qu'ils avaient. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Toujours est-il que certains chrétiens ont essayé de contourner cette pratique d'Halloween sans pour autant pénaliser leurs enfants en utilisant cette forme de procédé. Et puis, il y a ceux, une autre catégorie de chrétiens, qui profitent de cette fête d'Halloween pour propager l'Évangile. Alors que font-ils ? Quand les enfants frappent à leur porte, par exemple, pour demander des bonbons, ils les accueillent. Il leur offre des bonbons, mais en même temps, il leur donne aussi un petit feuillet ou bien un traité, ou bien même un Nouveau Testament. Et c'est une forme, finalement, de témoignage qu'ils utilisent avec l'opportunité que leur offre cette fête d'Halloween. Ça ne répond toujours pas à la question. Est-ce qu'en tant que parent chrétien, je peux autoriser mes enfants à participer à cette fête? Demandons à Dieu de tenir notre conscience éveillée. Et demandons aussi à Dieu que nous puissions faire preuve de discernement, comme nous l'avons rappelé en introduction, et comme nous l'avons rappelé avec ce verset de Paul au chapitre 12, verset 2 du livre de l'Épître aux Romains. « Ne vous conformez pas, dit-il, au siècle présent ou au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de connaître, afin de discerner la volonté de Dieu en toute chose, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, demandons vraiment au Seigneur, dans toutes circonstances, et en particulier dans le cadre de cette fête d'Halloween qui arrive prochainement, la sagesse, le discernement et une conscience éveillée. Plus notre intimité avec Dieu sera intense, mieux, plus nous ferons les choix les plus opportuns, les plus adéquats avec ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous et pour sa gloire. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, dit ceci, on le connaît hein, évidemment, « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. » C'est ce que nous devons essayer de viser, la gloire de Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient nos actions, quelles que soient nos activités, visons essentiellement à vivre et à témoigner à travers nos existences et les circonstances qui la jalonnent, la gloire de Dieu.